Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Aujourd'hui, la Belgique cherche toujours une issue au blocage politique qui dure depuis les élections du 26 mai dernier.
Oui, 177 jours sans gouvernement et bien plus si on remonte à la démission du Premier ministre Charles Michel, c'était le 18 décembre 2018. On n'a pas encore atteint le record des 541 jours sans gouvernement en 2010-2011. Il n'en reste pas moins urgent de former une coalition pour un gouvernement fédéral. Alors les deux partis qui ont recueilli le plus de voix aux élections du printemps dernier, ce sont côté wallon le Parti socialiste et côté flamand les nationalistes de la Nouvelle Alliance flamande. Impossible de trouver entre eux des terrains d'entente. Apparemment, le président du Parti socialiste francophone Paul Magnette doit rendre aujourd'hui les conclusions de sa mission d'information dont l'a chargé le roi Philippe pour dessiner les différents scénarios d'une coalition fédérale. Avant lui, d'autres personnalités chargées de cette tâche ont jeté l'éponge. Bonjour Pascal Delwitte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin depuis Bruxelles. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Alors Pascal Delwitte, tout simplement, pourquoi est-ce qu'on ne revote pas? Pourquoi est-ce qu'on ne vote pas à nouveau en Belgique comme en Espagne par exemple?
Je dirais qu'il y a deux raisons. La première raison est une raison d'essence institutionnelle. En Espagne, il est prévu qu'au terme d'une période, si aucun gouvernement n'a pu voir le jour, une élection est réorganisée. C'est ce qui s'est passé. En Belgique, ce mécanisme institutionnel n'existe pas et donc c'est une opportunité qui existe mais qui n'est pour l'instant pas mise en œuvre. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a à la fois une grande difficulté de former une coalition mais en même temps une très grande crainte dans le chef des représentants politiques des différents partis d'organiser une élection anticipée, la crainte étant à la fois d'accentuer certains traits du scrutin du 26 mai, c'est-à-dire notamment un fort vote en faveur de la droite radicale en Flandre et un fort vote en faveur de la gauche radicale en Flandre et dans l'espace francophone. Et d'autre part, il y a aussi une crainte que cette élection ne se transforme quasiment en un référendum, une élection référendaire sur le destin du fédéralisme belge, chose qui est très peu maîtrisable déjà par un référendum, a fortiori par un scrutin.
Et oui, parce que la question territoriale, alors la comparaison va peut-être s'arrêter là, mais en Espagne, elle est très présente dans le jeu politique, en Belgique aussi. Depuis le début du blocage, le débat a repris en Flandre pour ou contre le confédéralisme, voire la sécession. Ce nouveau blocage, il donne de nouveaux arguments à la Nouvelle Alliance flamande qui souhaite que les deux régions soient entièrement autonomes. Elle l'utilise comme un argument.
À tout le moins, elle l'utilise comme un levier dans la négociation, parce que non seulement elle est le premier parti en Flandre, certes elle a perdu, mais elle reste le premier parti, mais un des enseignements du scrutin, c'est la progression de l'extrême droite flamande, qui est deuxième parti côté flamand, et ces deux partis sont deux partis formellement indépendantistes. Donc, ce faisant, il délivre ce qu'on pourrait appeler une lecture confédéraliste des résultats du scrutin, d'autres lectures sont possibles, mais il y a à tout le moins cette vision, cette représentation et cet imaginaire qui est né après le scrutin. C'est la poussée confédéraliste en Flandre, voire la poussée indépendantiste. Et je dirais que les francophones ont beaucoup de difficultés à gérer cet aspect-là et à gérer cet imaginaire qui est moins présent côté francophone et surtout imaginaire belgicain ou en tout cas favorable au fédéralisme tel qu'il s'est décliné depuis 1993, moins favorable aussi du côté francophone.
Vous avez évoqué, Pascal Delwitte, la poussée ou la repoussée de l'extrême droite. La Belgique n'est pas épargnée par ce symptôme qui a gagné toute l'Europe et qui rend compliqué aussi les dessins de coalition. Donc en Belgique, bon, encore une fois, elle ne pousse pas l'extrême droite. Elle était déjà très présente, notamment en 2004, 24%. Le Flams Belang avait recueilli 24% des voix, 18% des voix en avril, mais en 2014, ce score était tombé à 6%. Comment est-ce qu'on explique ces résultats en dents de scie et qui contribuent à ce blocage politique et institutionnel?
Mais le Vlaams Blok et le Vlaams Belang avaient connu une ascension continue jusqu'au scrutin de 2004 et de 2007 et puis avaient connu un déclin. On expliquait ce déclin par l'entrée dans la scène politique, dans le jeu politique de la Nouvelle Alliance flamande, hein, très nationaliste mais également très à droite. Et en particulier très à droite sur des questions chères au Vlaams Blok et au Vlaams Belang, c'est-à-dire les questions migratoires. Mais en 2014, la NVA est montée au gouvernement et donc vous avez le côté désillusion par rapport à l'exercice des politiques publiques et donc un retour en force de l'électorat Vlaams Belang. Je dirais qu'on pourrait prendre un peu la comparaison avec ce qui s'est passé pour le Front National au scrutin présidentiel de 2007 où Nicolas Sarkozy avait capté l'essentiel des électeurs du Front National avec un retour de flamme qui s'est opéré en plusieurs temps, mais déjà dès le scrutin présidentiel de 2012 et confirmé bien sûr au scrutin présidentiel de 2017. C'est-à-dire, à un moment donné, un parti de droite prend le teint de l'extrême droite, en profite électoralement un temps, mais ne peut pérenniser la captation de cet électorat qui retourne vers le parti d'origine.
Et c'est le cas dans de nombreux pays d'Europe. Le géographe Sylvain Kahn était venu en parler sur notre antenne très récemment. Pascal Delwitte, cette coalition qui n'arrive pas à se mettre en place, le Parti Socialiste Wallon, qui donc a remporté le scrutin dans la région francophone, et le Parti Nationaliste Flamand, l'Alliance Néo-Flamande, ne se sont trouvés aucun dénominateur commun. Et pourtant, ils ont cherché, pour différents, voire opposés qu'ils soient, ça n'était pas possible.
Non, ils ont effectivement cherché. Les cinq premiers mois de la négociation ont surtout été consacrés à des rencontres occasionnelles entre des représentants du Parti Socialiste et des représentants de la NVA, à tester l'hypothèse d'une coalition, mais de fait, à la fois sur l'exercice des politiques publiques, il y avait très peu de points de synthèse, et surtout sur les contraintes auxquelles étaient confrontés les partis, il y avait très peu de points de synthèse également, parce que le Parti Socialiste, lui, est confronté à une poussée de la gauche radicale et à une poussée des Verts, et donc doit tenir compte de cet élément-là dans sa réflexion et dans son action politique, tandis que la NVA, elle est confrontée à la poussée du Vlaams Belang, de l'extrême droite, et donc doit aussi tenir compte de cet élément-là. Ça ne facilitait pas du tout la possibilité d'atteindre des points de synthèse, et donc à ce stade, à tout le moins, on ne voit pas quels pourraient être ces 10 points.
Le Parti Socialiste, par exemple, dit que le Parti Nationaliste Flamand refusait d'aborder les questions sociales et qu'en revanche, il ne mettait en avant que son programme institutionnel, qui n'est pas très compatible avec celui du Parti Socialiste Wallon, à savoir scission de la sécurité sociale, des politiques de santé et autres politiques sociales. C'est toujours ce débat sur le confédéralisme, voire la sécession. Et néanmoins, c'est pour ce programme que les Flamands ont majoritairement voté. Donc encore une fois, la question territoriale se surajoute à la question politique.
Oui, effectivement, c'est un peu les termes de la négociation, même si, du point de vue socialiste, une réflexion sur une réforme de l'État n'était pas exclue. Le point, effectivement, était néanmoins sur un certain nombre d'éléments de politique sociale au niveau du gouvernement fédéral. Après, la difficulté, c'est l'interprétation des résultats électoraux. C'est-à-dire que si vous prenez la droite radicale du Vlaams Belang, elle a fortement progressé, mais elle a fortement progressé sur un double discours. Un discours bien classique, bien évidemment, de la droite radicale, c'est-à-dire le rejet de l'immigration des demandeurs d'asile et de tout ce qui représente l'autre, mais en même temps, un discours également très social, pas de gauche, mais très social, par exemple, sur la question des pensions. Et une partie des politologues néerlandophones et francophones jugent que le succès du Vlaams Belang est aussi lié à cette campagne très sociale et qui détonnait par rapport aux positions très néolibérales de la Nouvelle Alliance flamande. Donc il y a deux manières de voir les choses. Soit vous dites c'est le bloc nationaliste qui est très fort en Flandre, soit vous dites un aspect de la victoire du Vlaams Belang, c'est aussi son positionnement très social, en particulier sur la question des pensions. Et de ce point de vue-là, en fonction de l'interprétation que vous aurez bien sûr un schéma d'action possible ou d'action non possible au gouvernement fédéral.
Pascal Delwitte, est-ce que pour expliquer ce blocage, on peut parler en Belgique, alors comme en Espagne, mais aussi comme en Italie, comme en Autriche, et aussi comme en France dans une moindre mesure, d'une certaine usure des forces politiques traditionnellement majoritaires? En Espagne, en Italie, on n'est plus dans une politique de parti, mais de bloc de parti. C'est ainsi qu'on a vu en Italie se former cette alliance contre nature du Parti démocrate de centre-gauche et du mouvement 5 étoiles. Rien de tel n'est pour l'instant envisageable en Belgique?
Non, mais en même temps, ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une usure forte des partis traditionnels. Si vous regardez les trois grandes familles historiques, la famille socialiste, la famille catholique conservatrice et la famille libérale, les trois ont perdu dans le temps et ont en particulier perdu le scrutin du 26 mai dans le spectre francophone et néerlandophone. Et donc, vous avez une fragmentation du système politique. Il ne faut pas oublier qu'un des aspects très complexe de la gestion de la formation d'une majorité gouvernementale, c'est que 30 des 150 sièges à la Chambre des représentants sont des sièges, soit pour l'extrême droite, soit pour la gauche radicale, et que par ailleurs, en dehors de ça, la fragmentation s'est accrue, et donc c'est très très difficile de former des coalitions, a fortiori des coalitions cohérentes.
Pascal Delwitt, un dernier mot, on n'aura pas eu le temps de raconter comment fonctionne un pays sans gouvernement, mais on l'avait déjà beaucoup raconté à l'époque du blocage en 2010-2011, ça n'avait pas empêché beaucoup de lois, notamment d'être votées, en tout cas des décisions politiques d'être prises, comme l'intervention en Libye par exemple. Mais en quelques mots, parmi les options évoquées, un gouvernement de techniciens, comme en Italie en 2011, c'est une option qui a les faveurs de l'opinion publique belge?
Non, c'est pas une option qui a les faveurs de l'opinion publique belge et peu des analystes non plus. Il faut jamais rien exclure, bien évidemment, mais on voit pas tellement bien comment un gouvernement de techniciens pourrait recevoir un aval parlementaire qui est de toute façon nécessaire, c'est-à-dire au moins 76 députés sur 150. Non, je pense qu'il y a une alternative simple. Soit on arrive à former cette coalition, quelle qu'elle soit d'ailleurs, soit effectivement il faudra prendre acte que c'est impossible et organiser une nouvelle élection.
Merci beaucoup Pascal Delwitt d'avoir été avec nous ce matin depuis Bruxelles. Bonne journée.